Orient Extrême. L'actualité asiatique vue par Adextra, première plateforme de l'action missionnaire en Asie. Une émission présentée par Joseph Saunier.
Aucune force ne parviendra à chasser les colonialistes français du sol vietnamien, si ce n'est la prière. Oui, la prière. Prie donc, mon cher petit frère. Prie beaucoup pour le peuple français. Plus tard, il ne sera plus l'ennemi du Vietnam, ta patrie. Grâce à la prière et au sacrifice, il deviendra son ami intime. Plus encore, il considérera le Vietnam comme son petit frère le plus cher. Rappelle-toi de prier pour que les deux pays ne fassent plus qu'un, comme les deux fleurs de France et du Vietnam, intimement unies dans mon amour. Ami auditeur, bonjour. Ces mots extraordinaires que vous venez d'entendre sont ceux de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui apparaissent à Marcel Van, lui révélant l'extraordinaire lien spirituel qui unit le Vietnam et la France, qui étaient alors en guerre. Évoquons aujourd'hui la place qu'a eue la France et l'Église dans l'enseignement au Vietnam. Amis auditeurs, vous êtes bien sûr Orient Extrême, l'émission des missions étrangères de Paris, qui vous plonge au cœur de l'Asie, sur Radio Notre-Dame et RCF. Et pour parler de ce sujet, j'ai la joie d'accueillir Marie Lai Thi Wa. Bonjour madame.
Bonjour Joseph.
Marie Lai Thi Wa, vous êtes l'auteur de « L'enseignement catholique dans les bouleversements de la société vietnamienne de 1930 à 1990 », qui a été publié aux presses universitaires de Bordeaux dans la collection « Identité religieuse » en 2024. Marie Lai Thi Wa, pourquoi avoir choisi comme sujet de recherche l'enseignement catholique au Vietnam ?
Je souhaite vous présenter mon choix de mon sujet d'étude qui s'est imposé à moi à la croisée de mon parcours personnel et de mes interrogations intellectuelles. En 2001, j'ai quitté le Vietnam pour poursuivre mes études en France. Ce départ m'a permis de découvrir une nouvelle façon de lire et d'interpréter l'histoire. Caractérisée par une rigueur scientifique associée à une profondeur contextuelle. En confrontant mes premières connaissances acquises au Vietnam avec les approches que j'ai découvertes au Bernardin, à l'Institut catholique de Paris et à l'École pratique de hautes études, j'ai pris conscience d'une réalité fascinante. L'héritage colonial français, souvent critique et méconnu, a joué le rôle central dans la formation des institutions éducatives vietnamiennes. C'est cette découverte qui a orienté mon choix du sujet. Explorer les interactions entre la tradition vietnamienne et l'influence française dans le domaine éducatif. Cette exploration me permet de comprendre comment les interactions ont façonné non seulement les institutions, mais aussi les mentalités, les idées et les représentations. En ce sens, mon travail s'inscrit dans une démarche de réflexion sur la mémoire collective, mêlant reconnaissance, critique et réappropriation.
Avant d'entrer au cœur de votre thèse, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement le contexte historique du Vietnam entre 1930 et 1990 ?
Dans le contexte historique du Vietnam, je vais vous présenter le thème central de mon ouvrage « L'enseignement catholique au Vietnam, un levier d'identité et de résistance face aux mutations politiques, sociales et culturelles de 1930 à 1990 ». Cet ouvrage explore comment l'éducation catholique a été pilier stratégique pour l'Église au Vietnam, jouant un rôle clé dans la préservation et le renforcement de l'identité catholique, tout en étant profondément marqué par les mutations historiques politiques du pays. Mon ouvrage retrace les transformations de l'éducation catholique au Vietnam dans un contexte marqué par la colonisation française, la guerre d'Indochine de 1945 à 1954, la guerre du Vietnam du Sud de 1965 à 1975, et la réunification sous le régime socialiste communiste à partir de 1975 dans tout le pays. Chaque période a profondément influencé la manière dont l'Église a pu intervenir dans l'éducation et dans la société.
On comprend bien, Marie-Lethi, il y a plusieurs périodes dans cette... dans ce 20e siècle au Vietnam, une période où la France, cette colonie donc, du Vietnam, est archi-présente, puis l'indépendance en 1954 avec l'arrivée des communistes, et tout ça en filigrane avec la présence de l'Église. Est-ce que vous pouvez nous parler du rôle joué par l'Église dans l'enseignement catholique au Vietnam ?
En fait, le rôle de l'Église dans l'enseignement catholique, on comprend qu'au début du XXe siècle, le Vietnam, on a commencé avec le système de l'enseignement colonial français à partir de 1917. Voilà, avec le système de l'enseignement élémentaire primaire supérieur. L'Église qui... Le rôle de l'Église dans l'enseignement qui sont... capacité dans le domaine de l'éducation de primaire, élémentaire primaire, primaire supérieur, parallèle à l'école publique. Mais à partir de... Bien sûr qu'ils sont réceptivité que l'encyclique du pape Pie XI en 1929 qui avait encouragé l'Église vietnamienne à développer une pédagogie alliant à la culture catholique occidentale et les traditions locales. Alors qu'à partir de... Après le colonial français du Nord, on a terminé du système de l'enseignement catholique à cause de la politique sociopolitique communiste. Mais de suite, le pape du Sud au Vietnam... l'impact de l'enseignement catholique de l'Église qui sont réceptivité l'encyclique du pape Paul VI dans le domaine de l'enseignement catholique. Alors qu'à partir de 1969, l'ouverture de l'Institut supérieur de pédagogie et de catéchèse à Saigon en 1969, cet institut créé par les évêques vietnamiens a été un impact important vers la modernisation de l'éducation catholique, alignant ses actions sur les orientations du Concile Vatican II. L'Institut supérieur de pédagogie et de catéchèse à Saigon visait à offrir une formation de qualité et de répondre aux besoins de la jeunesse vietnamienne, tant sur le plan académique spirituel. Les évêques vietnamiens ont joué un rôle central dans cette initiative en prenant des décisions concrètes sur sa mise en place et en apportant leur soutien administratif et financier. Le rapport de Mgr Hoàng Văn Đoàn en 1971 a mis en lumière l'importance stratégique de cet institut pour l'éducation catholique et la société vietnamienne. Alors, l'Institut supérieur de pédagogie et de catéchèse à Saigon a ainsi permis de génération des jeunes vietnamiens de bénéficier d'une éducation chrétienne moderne et engagée, ancrée dans la réalité sociale du pays, tout en restant fidèle aux enseignements de l'Église. Ce projet illustre parfaitement la vision du pape Paul VI, une éducation catholique avancée sur le plan scientifique, social pertinente et profondément enracinée dans les traditions locales. Cette contribution a marqué un tournant dans le rôle éducatif de l'Église au Vietnam, répondant aux défis du XXe siècle, tout en préparant l'avenir.
Est-ce que cette relation entre l'enseignement catholique et peut-être l'enseignement qui est prodigué par l'État et par un enseignement qu'on pourrait dire presque public, pour faire un parallèle avec aujourd'hui, est-ce que ces relations se sont bien passées? Est-ce que le gouvernement communiste, par exemple, a accepté cet enseignement catholique?
Donc, c'est à partir de 1969, je parlais dans le contexte du Sud au Vietnam, c'est libéré. Tant les cœurs du Nord, à partir de 1954, c'est terminé toutes les écoles catholiques, tous les systèmes de l'enseignement catholique, même tous les séminaires du Nord sont fermés. Dans ce contexte du Sud au Vietnam, c'est bien sûr que c'est le système de l'enseignement catholique qui sont confrontés avec l'enseignement d'État public et le gouvernement du Sud qui sont soutiennent le système de l'enseignement catholique du Sud au Vietnam.
Amis auditeurs, on retrouve Marie Letiwa qui continue de nous parler de l'enseignement catholique au Vietnam tout de suite après une petite pause musicale. Avec Marie Letiwa, après cette musique « Tout est la grâce de Dieu » composée par le prêtre Wee Wong et interprétée par la sœur Wong Fung. Nous revenons avec Marie Letiwa, auteure de L'enseignement catholique dans les bouleversements de la société vietnamienne de 1930 à 1990, publiée aux presses universitaires de Bordeaux dans la collection Identité religieuse en 2024. Marie Letiwa, vous vous êtes également intéressée à un autre sujet. Cet autre sujet, c'est l'impact qu'ont eu les papes dans la guerre du Vietnam, avec notamment le rôle de Jean XXIII et de Paul VI. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça? Qu'ont fait le pape Jean XXIII et le pape Paul VI pour apaiser, non seulement pendant la guerre du Vietnam, mais également pendant la guerre froide?
Merci de votre question. Si intéressant que Vietnam, c'est pour notre pays. Imagine notre pays, c'est 30 ans de la guerre. La guerre d'Indochine, à partir de 1945 à 1954. Et à la suite, c'est la guerre civile du Sud au Vietnam. Alors, pendant la guerre civile du Sud au Vietnam, le rôle du pape Jean XXIII et Paul VI dans le contexte de la guerre, c'est excellent, important pour notre pays, non seulement pour l'Église catholique au Vietnam, mais c'est pour le Vietnam. Alors, le rôle des papes Jean XXIII et Paul VI pendant la guerre du Vietnam, dans le contexte de la guerre froide, la guerre du Vietnam a constitué un défi complexe pour le Vatican. Sous le pontificat de Jean XXIII et le Paul VI, le Saint-Siège a déployé une diplomatie active en faveur de la paix, s'appuyant sur une vision théologique axée sur la dignité humaine, le droit de l'homme et le dialogue. Le pape Jean XXIII a défini une vision universelle de la paix dans son encyclique Pacem in Terris en 1963. En la fondant sur quatre principes, la vérité, la justice, l'amour et la liberté. Il a affirmé que le respect des droits fondamentaux était essentiel pour résoudre les conflits. Bien que le pape Jean XXIII soit décédé avant l'escalade de la guerre du Vietnam, son enseignement a posé la base d'une diplomatie vaticane centrée sur le désarmement nucléaire et le dialogue international, principe qui ont guidé les efforts de son successeur Jean Paul VI. Le pape Jean Paul VI a mené une action diplomatique déterminée pour favoriser la paix au Vietnam. Dans son discours à l'ONU en 1965, il a exhorté les nations à mettre fin aux hostilités et à s'engager dans des négociations pacifiques. Il a également plaidé pour le rôle accru de l'ONU dans la résolution du conflit vietnamien. Sur le terrain, le pape Paul VI a multiplié les interventions auprès de belligérants. Il a adressé des appels directs à Nguyễn Văn Thiệu, président du Sud, et à Hồ Chí Minh, dirigeant du Nord, les invitant à négocier une paix juste. En parallèle, il a exhorté les États-Unis à cesser les bombardements au Nord et demandé aux dirigeants communistes de stopper les infiltrations militaires dans le Sud. Ces initiatives reflètent son engagement en faveur d'une diplomatie de dialogue et de justice, inscrivant son pontificat dans une quête active de paix mondiale.
Si on prend un peu de recul, Marie Letiwa, est-ce qu'on peut dire que, quand on pense à la guerre froide, on pense à Cuba, on pense à la Russie, est-ce que là, si on prend du recul, on peut se dire que le Vietnam, c'est un peu une clé de voûte de la guerre froide, un point névralgique? Dans le sens où le Sud est vraiment occidental avec le soutien des États-Unis, le Nord a le soutien de l'URSS qui est soviétique communiste. Est-ce que finalement la guerre froide se joue au Vietnam?
À nos jours, si dans le contexte de la guerre du Sud, c'est dans le contexte de la guerre froide, À côté du nord, c'est la Chine et la Russie qui sont poussées, voilà, qui sont poussées pour intervenir entre du nord et du sud. Mais à côté du sud, au Vietnam, c'est les Américains qui sont aidés les armées pour contre le communisme du nord, tandis que c'est la Russie et la Chine qui sont aidés les conseillers, les logistiques pour le nord au Vietnam.
Je sors un peu du contexte historique. Est-ce que maintenant, vous pouvez nous parler, Marie Letiwa, de cette diplomatie entre le Vatican et le Vietnam? Comment est-ce que maintenant, on a peut-être un soutien du pape? Est-ce qu'on peut envisager une visite du pape au Vietnam aujourd'hui?
Ah, c'est la question diplomatique à nos jours entre oui. Vatican et Vietnam. Votre question si intéressante. Imagine, à partir de 1975 au nord, au Vietnam, excusez-moi, à partir de 1975 au Vietnam, ils sont déjà coupés avec la diplomatique entre Vatican et Vietnam. Mais pourquoi j'ai démis de ma thèse jusqu'en 1990? Parce que 1990, c'est comme la première relation entre Vatican et Vietnam. Mais processus pour dialogue, pour communiquer, il faut long. Il faut attendre que jusqu'à nos jours, à nos jours, la diplomatique entre Vatican et Vietnam s'est déjà établie. Diplomatique entre Vatican et Vietnam en 2024, sous la présence de Monseigneur Janowski. Ils sont en tant que délégué du pape ou le nonce apostolique au Vietnam. La question des visites du pape, je crois, tôt ou tard, ça, la question, ce n'est pas trop difficile. Ce qui est difficile, la question de l'idéologie, la question d'accepter le système de l'enseignement catholique au Vietnam, ça, c'est encore difficile entre communistes et catholiques. Conclusion de mon ouvrage, j'ai déjà posé la question à nos jours, la question, bien sûr, que le défi qui sont toujours là, mais avec un espoir, la foi et espoir que dans le contexte de mondialisation économique et internationale, le diaspora vietnamien se jouer un rôle important pour l'Église catholique. L'avenir aussi. Mais la question de l'enseignement catholique, il faut avancer avec la question de médias catholiques. À nos jours, l'Église catholique, il n'est pas encore permis d'imprimer, de radio, de télévision. Voilà, ça, il se pose la question aussi.
Une situation complexe, on le comprend bien quand vous en parlez. Une toute autre question, plus géopolitique. Quelle comparaison peut-on faire entre la guerre du Vietnam et la guerre d'Ukraine qu'on vit en ce moment?
En fait, ce sujet, c'est hors de mon ouvrage. Mais on peut comparer ce sujet. Permettez-moi d'avancer avec comparaison entre la guerre d'Ukraine et Vietnam. Les guerres du Vietnam de 1965 à 1975 et Ukraine depuis 2022 présente des similitudes et des différences marquantes, notamment en termes d'idéologie, d'intervention internationale et d'impact géopolitique. Le conflit idéologique, le Vietnam, la règle illustre que la rivalité entre les communistes de la Russie et de la Chine et le capitalisme des États-Unis. Le Nord Vietnam voulait unifier le pays sous le communiste, tandis que le Sud défendait un modèle pro-occidental. En Ukraine, bien que moins idéologique, Le conflit oppose la souveraineté ukrainienne soutenue par l'Occident, l'Europe et l'OTAN.
Merci beaucoup, Marie Letiwa. Vous êtes l'auteur de l'enseignement catholique dans les bouleversements de la société vietnamienne de 1930 à 1990, Marie, au Presse universitaire de Bordeaux dans la collection Identité religieuse en 2024. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, Marie Letiwa.
Merci de votre écoute et de... Merci.
Et merci à vous, amis auditeurs, c'est vous qui faites le succès de cette émission. Vous êtes incroyables. Je vous souhaite une excellente semaine. Que la paix soit avec vous.